Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, bienvenue à Territoire d'info, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois, avec vous pour la prochaine demi-heure pour faire le tour de ce qui s'est passé cette semaine au territoire du Nord-Ouest. Et voici ce qui a retenu notre attention. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest dévoilait ce mercredi 8 décembre son plan d'action provisoire en réponse aux appels à la justice pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQ+ autochtones disparues et assassinées. Le document comprend 95 engagements ou actions à entreprendre.
We're being asked to end the genocide. That's what the national plan found, that there was a genocide. We're being asked to find a way to end it.
Le tout devra contribuer à combattre ce qui a été désigné dans le plan national comme un génocide. C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre responsable du statut de la femme des TNO, Caroline Vazonek, en point de presse le 9 décembre. Ce plan provisoire sera soumis à un nouveau processus de consultation au cours des prochains mois. Le document final devrait être dévoilé en juin 2022. La ministre Vazonek a déposé le document à l'Assemblée législative après avoir notamment rendu hommage aux 14 femmes assassinées à l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989.
We must take a strong stand against all forms of violence in order to change our society and create a safe space for all to thrive in.
Nous devons nous dresser devant toute forme de violence, de sorte de changer notre société, a-t-elle déclaré, et de créer un espace sécuritaire pour toutes les personnes qui s'y trouvent. Le GTNO compte s'engager au courant des prochains mois auprès des gouvernements autochtones, des élus des collectivités et des personnes témoins ou victimes de violence quant à ce qui est proposé dans ce plan d'action provisoire. La ministre assure que des actions seront toutefois entreprises avant le dépôt du plan final.
I'm not waiting on the final for us to start making sure that we are aligning ourselves to the actions here. And I don't believe other ministers necessarily are either, nor departments themselves.
Je n'attendrai pas le dépôt du document final avant de commencer à agir. Je crois que tous les autres ministères feront de même, a-t-elle indiqué.
I'm conscious a lot of the things that are spoken to here were work that was either already being contemplated or might already been underway. But it's how they're doing it and why they're doing it and making sure it's being done in a way that is, in fact, building trust and being respectful of relationships and not just business as usual.
Plusieurs des éléments inclus dans ce rapport provisoire représentent du travail déjà en cours ou qui est déjà sous la loupe du gouvernement. Ce plan vise à poursuivre ou à entreprendre le travail à travers un processus par lequel nous bâtirons nos relations avec les résidents afin d'accroître la confiance qu'ils ont envers leur gouvernement. Comme l'a indiqué la ministre, un changement de culture devra s'opérer au sein même du gouvernement. Le plan d'action vise en bref à amorcer le processus nécessaire pour lutter contre le colonialisme ainsi que la discrimination raciale et sexuelle à tous les ordres de gouvernement et dans toutes les institutions publiques. Les 95 actions proposées en réponse aux appels à la justice dans ce plan provisoire concernent la culture et la langue, la santé et le bien-être, la sécurité humaine et le système judiciaire. On y trouve notamment des efforts de promotion et de revitalisation des langues autochtones, des engagements visant à combattre la crise du logement et la pauvreté dans les collectivités, ou encore des initiatives visant à accroître l'engagement politique des femmes autochtones et l'embauche de personnes autochtones au gouvernement. L'adoption d'une loi sur les personnes disparues est également au programme.
I suppose if I were to say what needs to change first, it's for particularly that group of public servants who are marked as the change leaders, and they're across all departments, that they internalize that, that they internalize that they hold this power to change the way that they deal with each other and to change the way that they deal with those that we serve as public servants.
Les changements doivent d'abord s'imposer auprès des employés du gouvernement qui sont désignés comme des leaders de changement, indique la ministre Caroline Vazonek, et ce dans tous les ministères afin que la fonction publique intériorise les principes mis de l'avant. Les employés du gouvernement devront comprendre qu'ils détiennent ce pouvoir de changer la manière dont ils interagissent les uns avec les autres et de changer la manière dont ils interagissent avec les personnes que nous servons en tant que membres du gouvernement.
The fundamental way that we look at one another in society and as a culture should change.
Et sur le terrain, dans les collectivités, la priorité aux yeux de la ministre, c'est que le personnel de première ligne et les résidents s'approprient ce plan provisoire et laissent leur marque dans le plan final.
People with lived experience in communities similarly can say when they see the draft plan, yeah, you know what, I saw that draft, I made some comments and I can now see that I'm being heard.
On veut que le personnel de première ligne et que les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes dans les collectivités puissent dire « J'ai consulté le plan d'action provisoire, j'ai émis mes commentaires et je vois aujourd'hui qu'on m'a entendu. » Le commissariat aux langues des territoires du Nord-Ouest a déposé en décembre son rapport annuel 2020-2021 à l'Assemblée législative. Une seule recommandation est émise, que le gouvernement fasse ses devoirs et réponde aux recommandations qui lui sont faites. On peut y lire notamment que le silence continu de l'Assemblée législative face aux recommandations formulées au fil des ans dans les rapports annuels et spéciaux des différents commissaires aux langues minimise l'importance du commissariat aux langues et discrédite son rôle. En poste depuis bientôt un an, la commissaire aux langues officielles des TNO, Brenda Gauthier, qui s'érige en porte-voix des langues officielles dont plusieurs sont en voie d'extinction au territoire du Nord-Ouest, s'est donné comme mandat de délier les langues et d'amener les résidents à décrier certains enjeux que le gouvernement semble, à ses yeux, ne pas entendre.
It's quiet. It's not as publicly knowledge what's occurring. I'm know very little.
Très silencieux, c'est de cette manière que Mme Gauthier décrit ses communications avec le gouvernement et l'Assemblée législative depuis son entrée en poste. Révisée tous les quatre ans, la loi sur les langues officielles des TNO est actuellement sous la loupe d'un comité de l'Assemblée législative composé de députés. Ces derniers sont chargés notamment d'entendre les différents acteurs impliqués, incluant la commissaire aux langues. Depuis 2004, ces processus de révision n'ont mené à aucun résultat. La loi est inchangée depuis maintenant 16 ans. Alors que l'année 2021 tire à sa fin, comment avance ce processus de révision de la loi?
What I've observed is very quiet. I know there has been a pause on it with the outbreak that really has quieted down. If they've restarted, I'm not aware of it.
C'est très silencieux du côté du gouvernement, indique la commissaire aux langues. Je sais que le processus de révision de la loi a été mis sur pause à cause d'une importante éclosion de COVID-19. S'ils ont recommencé, je n'en ai pas été informé. En juin 2021, le comité a tenu une première assemblée publique en vue de la révision de la loi sur les langues officielles, assemblée à laquelle ont été invités les résidents et organismes d'Inuvik. Cette première rencontre a réuni 5 intervenants, certains déplorant n'avoir été avertis que quelques jours avant l'événement. Brenda Gauthier dit l'avoir appris le jour même de l'événement. Le comité réviseur a par la suite corrigé le tir et publicisé le reste de la tournée qui devait se déplacer dans plusieurs régions à la fin de l'été. L'importante éclosion de COVID-19 qui a frappé le territoire au mois d'août a toutefois forcé de reporter le tout. Aucune date de reprise n'a pour l'instant été annoncée. Installée à Fort Smith, où elle a déménagé son bureau pour se rapprocher des collectivités, Mme Gauthier travaille à revoir ses plans pour les prochains mois. L'approche préconisée en début de mandat était de voyager dans les collectivités pour y rencontrer les résidents et faire connaître son rôle de commissaire. Le projet a rapidement été balayé par la pandémie.
Instead of going to a larger event, we've planned on attending. So we're just looking at a different way to do that.
La commissaire dit tenter d'explorer de nouvelles approches pour les prochains mois afin d'entrer en contact avec les communautés linguistiques et débuter le travail d'éducation.
My goal as Languages Commissioner for the Northwest Territories was basically to start receiving more complaints.
Son objectif ultime, recevoir davantage de plaintes.
Because we do have 11 official languages and we don't get much complaints, if any, from the 9 indigenous languages.
Madame Gauthier ajoute que les territoires du Nord-Ouest comptent 11 langues officielles et qu'en ce moment, son bureau ne reçoit que très peu de plaintes, voire aucune, à propos des 9 langues officielles autochtones. Avant son départ à l'automne 2020, la commissaire sortante Shannon Goldberg avait déclaré que la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest ne fonctionne pas. Elle pointait alors la difficulté, voire l'impossibilité pour les résidents des collectivités des TNO de recevoir des services dans la langue autochtone officielle de leur choix.
You can work on promoting an Indigenous language. However, if the services are not there or implemented properly, it kind of defeats the purpose.
On peut travailler à faire la promotion des langues autochtones, mais si les services ne sont pas là ou ne sont pas correctement implantés, indique Brenda Gauthier, ça remet en question l'utilité même de ces efforts. La Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest a un nouveau président. Jean de Dieu Toyeshimi prend le flambeau dès cette semaine, alors qu'une année chargée se dessine pour l'organisation. La CSFTNO espère notamment être entendue par la Cour suprême du Canada dans une affaire qui l'oppose au gouvernement des TNO. Mais au-delà des grands dossiers, le nouveau président insiste sur l'importance de poursuivre l'engagement de la Commission scolaire envers ses élèves et d'assurer que ceux-ci tirent le maximum de leur passage dans les écoles francophones du territoire. Monsieur Toyeshimi, vous êtes une personne engagée dans la communauté franco-ténoise. Vous étiez, il y a quelques années, directeur général de la Fédération franco-ténoise. Vous siégez depuis quelques années également sur le conseil d'administration de la Commission scolaire francophone. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous engager de la sorte pour l'éducation en français?
Écoutez, comme vous le dites, effectivement, je suis très engagé dans la communauté. J'ai passé beaucoup d'années au niveau communautaire. Ça fait quelques années, ça c'est mon deuxième mandat que je commence comme commissaire pour la commission scolaire francophone. Non seulement ça me concerne parce que mes enfants aussi ont fait leur parcours scolaire dans l'école francophone, je suis concerné par l'éducation en français, surtout en milieu minoritaire. Donc c'est ça, ce sont deux éléments qui viennent me chercher.
Quels seront les dossiers à porter dans le cadre de votre mandat, M. Toyeshimi, ou disons pour la prochaine année? Là, on pense d'emblée peut-être à un tour à la Cour suprême du Canada.
Écoute, effectivement, il y a ce dossier, mais en tant que président, je suis le porte-parole plutôt de ce que mes collègues commissaires donc, vont prendre comme des objectifs ou bien alors des visions pour l'année qui s'en vient. Il y a certains dossiers qui ont été déjà entamés. Et une chose quand même, un engagement commun que nous avons pris en tant que commissaire, c'est vraiment de mettre l'apprentissage, la réussite et le bien-être de chaque élève de notre commission à cœur de toute décision que nous allons prendre. Et on peut dire que chaque décision, ça va se baser sur ces trois points, l'apprentissage, la réussite et le bien-être de chaque élève.
Et vous l'aviez dit, vous venez d'arriver en poste. Le président sortant, Simon Cloutier, a cédé sa place cette année. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de son mandat, surtout sur le plan juridique. De façon générale, à vos yeux, M. Toyeshimi, quel legs laisse votre prédécesseur aux écoles francophones du territoire?
Je pense que l'une des choses quand même qu'on peut souligner, c'est le règlement. Le règlement qui a été adopté avec l'entente que nous avons eue avec notre ministre de l'Éducation, qui permet en fait d'ouvrir beaucoup plus les élèves dans nos écoles. On a peaufiné quand même nos relations avec le gouvernement actuel. Nous avons vraiment d'excellentes relations. Il y a eu l'agrandissement de l'école. On a inauguré donc notre gymnase durant cette période-là. Je n'étais pas prêt à tout énumérer, mais il y en a vraiment beaucoup de réalisations, beaucoup de dossiers qui ont été quand même accomplis. Au niveau intérieur, nous avons par exemple fini notre plan stratégique. Nous avons élaboré ce qu'on appelle le profil de sortie de l'élève. Alors, ça là, c'est un document qui a été élaboré pour que nous puissions pour dire quels sont les bagages que nous souhaitons voir quand un élève termine une école francophone dans les territoires du Nord-Ouest. Quels sont les bagages, quels sont les éléments que nous voulons voir dans cet élève-là? D'accord. Et c'est ce que nous avons appelé le profil de sortie de l'élève.
Une sorte d'indicateur de rendement.
Exact.
Vous parliez, M. Toyeshimi, des relations que la commission scolaire a su bâtir avec le ministre de l'Éducation, R.J. Simpson. Qu'est-ce qui reste à bâtir dans ces relations ou qu'est-ce qu'on plaide à l'heure actuelle devant le gouvernement des territoires du Nord-Ouest?
On aimerait que les relations vont au-delà de la personne qui est en place, c'est-à-dire qu'on aimerait que ce soit des relations fondées sur le bon fonctionnement des politiques qui sont en place et aussi, bien sûr, que ces relations ne se limitent pas seulement à la personne qui est en charge du dossier, mais que plutôt ce soit des relations qui sont continuellement de confiance, de communication. Et puis, on ne veut pas toujours que nous puissions toujours parler par les tribunaux, par exemple.
Hein? Et pour terminer, M. Toyeshemi, vous êtes au territoire du Nord-Ouest depuis un bon moment. Vous avez vu évoluer la situation du côté des écoles francophones. Comment se porte l'éducation en français au territoire du Nord-Ouest à l'heure actuelle, à vos yeux?
Oh oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions avec l'éducation, effectivement. Ça fait un bon bout de temps, effectivement, que je suis ici. On voit que beaucoup d'améliorations en termes d'infrastructures, par exemple. Nous continuons, par exemple, aussi à demander aussi des infrastructures, l'amélioration des infrastructures, surtout pour l'école boréale, pour lequel pendant longtemps ils sont maintenant aussi dans des portatifs qui sont devenus déjà des écoles permanentes alors que c'était des choses provisoires. Soit dit en passant, quand même, il y a eu aussi d'autres améliorations. Il y a eu la stabilité avec notre personnel, ce qui est quand même assez bon. Donc, le personnel enseignant, on trouve que c'est beaucoup plus stable et reste ici pour longtemps, ce qui donne aussi la stabilité dans l'enseignement pour nos élèves. Il ne faut pas aussi se fermer les yeux. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est bien sûr le recrutement pour avoir justement des enseignants qui viennent donner ces connaissances à nos élèves. On travaille continuellement pour stabiliser justement cette situation. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, bon, avec tout ce qui est venu avec la pandémie, donc ça a un peu perturbé ou ça a montré une autre façon aussi de donner, d'enseigner. Tantôt, on a eu des élèves qui étaient à la maison, qui devaient recevoir des cours à distance. Donc ça nous a ouvert les yeux pour dire, oh, il y a d'autres façons ou il y a d'autres moyens de donner des cours, ce qui peut-être va nous donner des idées pour certains cours que l'on ne peut pas peut-être donner sur place et voir est-ce qu'il y a d'autres moyens de nous améliorer ou d'innover dans nos écoles.
Jean de Dieu Toyeshemi, nouveau président de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest. On va sans doute se reparler au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. À court terme, le dossier de l'heure, c'est la possible comparution devant la Cour suprême pour tout ce qui entoure l'accès des élèves non ayant droit aux écoles francophones. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, je vous remercie.
Près de 440 personnes ont répondu l'hiver dernier à un sondage sur les dépendances qui leur étaient proposées par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Les résultats ont été dévoilés la semaine dernière par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Thomas Chabot est au bout du fil pour nous partager les détails. Thomas, d'abord, ce n'est pas nouveau, mais prenons le temps de le souligner, les statistiques sont alarmantes au territoire du Nord-Ouest sur le plan des dépendances.
Oui, Thomas, et l'importance d'un tel sondage est indéniable au territoire du Nord-Ouest. En 2015-2016, on déplorait au TNO 6 fois plus d'hospitalisations causées par l'alcool que la moyenne canadienne. Mm-hmm. Et en 2017-2018, 5 fois plus d'hospitalisations chez les mineurs. En 2014, le territoire se situait au deuxième rang pour les coûts par habitant liés à l'utilisation de substances. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a donc proposé ce sondage du 15 février au 31 mars 2021. Vous le disiez, près de 450 personnes ont partagé leurs commentaires et leurs témoignages. Il est important de préciser que parmi les répondants, 71% sont des femmes, 57% sont autochtones et plus de 90% d'entre eux sont âgés de 20 à 64 ans.
Et maintenant, on entre dans les chiffres du sondage, Thomas. Qu'est-ce qu'on apprend?
En ce qui concerne les services, une majorité a pris part à des séances de consultation individuelles. Parmi les autres services auxquels les participants ont accédé, il y a les services de soins de santé dans 37% des cas, le système de soutien par les pairs dans plus du quart des cas et le traitement des dépendances en établissement, le quart des cas. Les femmes utiliseraient près de 2 fois plus le programme eMental, qui est un programme de santé mentale en ligne, ainsi que les programmes de guérison dans la nature. Les programmes de support par les pairs sont pour leur part davantage choisis par les hommes. Mm-hmm.
Et Thomas, le portrait est beaucoup moins encourageant là, quand il est temps de parler des services qui sont offerts en ligne ou par téléphone.
Et oui, près de 60 % des répondants ont indiqué ne pas avoir vu de changement majeur dans leur vie après avoir accédé à ces services. Mm. Une personne sondée fait part que tout ce qui est en ligne est une blague. Les gens ne l'utilisent pas. Ceux qui en ont le plus besoin n'ont pas accès à Internet, ne peuvent pas lire ou ne peuvent pas écrire. Aussi, il existe une disparité en ce qui a trait à l'admission au service. En moyenne, l'impossibilité d'accéder à un service était d'un peu plus de 12 % chez les non-autochtones contre plus de 20 % chez les participants autochtones. Plus de 40 % des répondants autochtones ont aussi indiqué avoir voulu participer à un programme de guérison dans la nature sans en avoir eu la possibilité. Il y a plusieurs barrières qui compliquent l'accès à ces services, notamment l'absence de plusieurs de ces services dans certaines collectivités ténoises. Dans 43 % des cas, c'était ça la barrière. Il y a aussi le temps d'attente dans 11 % des cas. Plusieurs répondants ont même indiqué ne pas savoir que ces programmes existaient ou ne pas savoir comment y accéder dans un total de 40 % des cas. D'autres disent craindre les rumeurs et le jugement qui pourraient découler de la décision d'accéder à l'un de ces services. Cette crainte des rumeurs et d'une violation de la confidentialité est l'une des principales barrières soulignées en ce qui concerne l'accès aux consultations individuelles et aux soins de santé. Mmh.
Pour pallier au problème d'accès aux services, Thomas, certains proposent d'instaurer un centre de traitement des dépendances à l'échelle territoriale. C'est une idée qui fait quand même pas l'unanimité.
Non, car l'admission en centre de traitement n'est pas garantie ni immédiate. Si seulement 20 % des répondants disent avoir attendu plus de 3 mois, ce sont 30 % des 50 à 64 ans et 38 % des participants s'identifiant à un autre genre, homme ou femme, qui ont coché oui à la question. Ces programmes sont donc offerts à l'extérieur du territoire, et bien qu'une majorité des répondants s'est dite satisfaite du service, des commentaires troublants ont été émis par d'anciens participants à des programmes de traitement en établissement. Je vais vous en lire un. Mm-hmm. C'était une expérience dégradante. J'avais l'impression d'être de retour au secondaire. Il n'y avait que très peu de respect de la part des conseillers et des gestionnaires. On nous y a aussi servi de la nourriture périmée provenant de banques alimentaires et de restants d'épicerie. D'autres commentaires font mention de racisme, de stigmatisation et d'enjeux de confidentialité chez les fournisseurs de services de traitement des dépendances. Un répondant témoigne « J'étais vraiment en colère quand il y a eu atteinte à ma vie privée et que mon dossier s'est retrouvé aux ordures. » Un participant dit avoir été humilié lors de son retour au travail, avoir été exclu et discriminé par ses collègues et supérieurs. Le sondage sur les traitements des dépendances au territoire du Nord-Ouest sera réitéré à chaque 2 ans afin de faire un suivi de l'évolution des services.
Et Thomas, un comité de l'Assemblée législative se penche présentement sur la question. Il y a certains députés membres du comité là, qui avaient souligné la taille de l'échantillon. C'est quand même peu de répondants, là, 439 répondants au total. On remet en question la représentativité de cet échantillon-là. On en retient quand même des données importantes et, comme vous le disiez, ça va faire l'objet d'un suivi dans les prochains mois et les prochaines années. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
L'industrie du cinéma aurait atteint ses limites au territoire du Nord-Ouest, du moins sur un plan technique. C'est le constat des 2 fondateurs du studio Artless Collective de Yellowknife qui ont décidé d'aller de l'avant et de donner un nouveau souffle au 7e art du Grand Nord canadien. Dès janvier 2022, le projet Hyper Arctica Crew Lab, ou HACLAB, réunira une toute nouvelle équipe de 8 techniciens en herbe qui seront affectés à 3 tournages signés, budgétés, et rémunéré.
Really, it's a work incubator program.
Dans les prochaines semaines, cet incubateur d'experts, comme le décrivent les instigateurs du projet, Pablo Saravanja et Jay Balkert, produira une publicité, un épisode de série web et un court-métrage. Et comme l'explique Jay Balkert, il ne s'agit pas d'un exercice.
The projects that we're going to be filming are real projects. You know, they have real clients and real budgets. These are projects that Pablo and I, our company, would have done sort of.
Nous avons un budget et des clients, explique Jay Balkert, instigateur du projet HACLAB. Normalement, nous nous occuperions de ces mandats à nous deux, nous embaucherions des techniciens à contrat. Or, nous avons décidé de saisir ces occasions et de répartir les profits dans l'équipe pour commencer à bâtir une expérience de travail. L'expérience a pour objectif, à terme, de développer les ressources qui, petit à petit, permettront aux créateurs des territoires du Nord-Ouest et d'ailleurs de réaliser leurs ambitions les plus fantastiques, et ce, à partir du studio de Yellowknife.
What we really want is an industry where people are working full-time, 5 days a week, 10-hour days on set, doing whatever the skill is that they're interested in.
Ce qu'on veut, poursuit M. Balkert, c'est une industrie où les gens travaillent à temps plein, 5 jours par semaine avec des journées de tournage de 10 heures, et ce, en pratiquant leur spécialité. À l'heure actuelle, les occasions seraient trop rares au territoire du Nord-Ouest pour permettre de générer l'expérience et l'expertise nécessaires.
People lose their knowledge after, you know, long periods of time like that. So...
C'est que les grosses productions qui proviennent du Sud avec d'imposantes équipes de tournage ne visitent que rarement le Nord. Selon M. Balkert, les territoires du Nord-Ouest ne pourront pas s'y fier.
Those productions happen once every 3 or 4 years. So...
Ces grosses productions venues des provinces du Sud nous ont appris beaucoup de choses sur le cinéma, convient M. Balkert. Elles sont évidemment plus que les bienvenues. Pourtant, il y a 20 ans que nous attendons que ces productions nous aident à bâtir l'industrie du cinéma et à former nos experts. Ce que nous constatons aujourd'hui, indique-t-il, c'est que ça ne s'est jamais produit.
We need to start somewhere, and the place that we need to start is to create an opportunity for a crew, an actual film crew, to be developed here in the North.
Nous devons commencer quelque part, poursuit Jay Balkert. Nous devons dès maintenant saisir les occasions de mettre en place une véritable équipe de tournage ici même, dans le Nord.
And that's where Hack Lab comes into play. Instead of looking at film as something that they do in and around their government job, they can start looking at film as something that they do full-time.
Plutôt que de voir le cinéma comme une chose qu'ils feront en parallèle à un emploi au gouvernement, les techniciens pourront considérer travailler à temps plein dans l'industrie du film. L'équipe d'Hack Lab profitera de la collaboration d'experts de Toronto et de Vancouver qui travaillent eux-mêmes sur des productions hollywoodiennes. Ils observeront virtuellement l'équipe se déployer sur le plateau de tournage de Yellowknife. À l'heure actuelle, le studio Darkless Collective, qui est situé dans la vieille ville, est doté d'un grand écran vert qui permet d'ajouter certains effets spéciaux aux productions. Toutefois, d'ici les 2 prochaines années, Jay Balkert et Pablo Saravanja souhaitent acquérir l'équipement pour se mettre aux productions virtuelles. Une technologie qui, selon eux, devrait éliminer plusieurs obstacles à la création.
Here, when you're often writing out all your amazing stuff and then... Right away, you're crossing off them off the list because you're like, well, we can't do that. We don't.
Au moment d'écrire un scénario, plusieurs personnes écrivent toutes sortes d'idées très originales, mais doivent les rayer de la liste en se disant, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas la capacité et les ressources pour le faire dans le Grand Nord.
The North is often far behind in terms of technology and future-facing tools like this. We want to change that.
En matière de nouvelles technologies, explique Jay Balkert, le Nord se trouve souvent loin derrière. On veut changer tout ça. On veut que les gens, même de Vancouver, puissent se dire « Il y a un studio là-bas avec tout l'équipement nécessaire. » Et ce studio a une équipe.
If we don't do something like this, I don't really see much of an industry in the next 5 years.
Et si on ne fait rien, conclut le cinéaste, je ne vois pas d'industrie du cinéma dans les 5 prochaines années au territoire du Nord-Ouest.
I see a lot of the... current, you know, content creators and directors ultimately deciding that living in Vancouver and working in Vancouver or Toronto is a better call.
Je vois plusieurs créateurs de contenu et réalisateurs décider éventuellement qu'il serait préférable d'aller travailler à Vancouver ou à Toronto.
The North is so desired on camera.
Pourtant, le Nord est très convoité sur caméra, qu'on parle de paysages, d'histoires autochtones.
If we do something like this and we really band together as a community, I actually think we could become like a mini Northern Hollywood.
Si tout le monde s'y met, Yellowknife pourrait devenir le mini Hollywood du Nord. C'est tout pour cette semaine et oui, c'était déjà la dernière émission de l'année 2021 pour Territoire d'Info. On vous revient autour de la mi-janvier 2022 avec vos actualités des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Au nom de toute l'équipe de la Salle des Nouvelles, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.